Société Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Nous sommes toujours à Yaoundé, au Cameroun, pour parler des hépatites virales, avec une prévalence de plus de 10% pour l'hépatite B, de plus de 12% pour l'hépatite C. Le Cameroun, je vous l'ai dit, est un des pays les plus touchés en Afrique et dans le monde par ces pathologies. Les hépatites se développent à grands pas, font plus de victimes que le VIH-SIDA. Alors comment améliorer l'accès aux soins? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec un reportage d'Igor Strauss, réalisé en partenariat avec l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'éducation pour la santé. Igor Strauss, juste avant les informations, on entendait le témoignage d'un jeune homme qui a été dépisté lors d'un don de sang. Donc un mot sur le dépistage, comment ça se passe en général?
Eh bien, c'est quasiment toujours de façon fortuite et il y a un grand nombre de patients justement diagnostiqués lors d'un don de sang. Alors une personne vient donner son sang pour venir en aide à un proche qui en a besoin. Bien entendu, le sang est analysé avant et testé. C'est comme ça qu'on détecte le virus. Mais je vous parlais de la mise en place donc d'un programme national de lutte contre les hépatites. Eh bien, le dépistage en fait partie évidemment pour éviter les complications, si ce n'est que pour l'instant on se focalise sur le coût du traitement, puisque à quoi bon être dépisté si on ne peut pas se payer le traitement derrière.
Et on retourne au CHU de Yaoundé, le docteur Marcel Nzoumé nous présente le seul patient qui est hospitalisé ce jour-là.
Alors on va voir là une patiente qui est hospitalisée pour une hépatite virale C, déjà au stade de complication, c'est-à-dire au stade de cirrhose, qui nous vient de la région anglophone du pays. Donc, le sud-ouest.
Hello, good morning. Yeah, okay. It's a journalist from RFI, Radio France Internationale.
Bonjour, monsieur. Comment ça va?
For today, I'm fine.
Aujourd'hui, ça va.
Depuis combien de temps est-ce que vous êtes hospitalisé ici au CHU?
Since last week, 20.
Depuis la semaine dernière. Je suis arrivé lundi.
Et pourquoi est-ce que vous avez été hospitalisé?
I was transferred. Because I had a problem.
J'ai été transféré parce que j'avais un problème avec mon hépatite C et mon foie.
Et votre cas a empiré à l'hôpital où vous étiez avant?
Yes.
Oui, je ne me sentais pas bien. J'étais très faible, je ne pouvais rien manger. Même boire de l'eau était un problème. Mais maintenant, je peux manger, je peux marcher. Donc je remercie les gens de l'hôpital pour tout ce qu'ils ont fait pour moi.
Et comment vous avez été diagnostiqué, à quelle occasion?
Because I was not feeling fine.
C'est parce que je ne me sentais pas bien. J'étais hypertendu, j'étais faible, j'avais des douleurs au ventre. Donc je suis allé à l'hôpital et c'est là qu'ils m'ont diagnostiqué une hépatite C. Et ils ont confirmé le résultat ici au CHU.
Est-ce que vous connaissiez cette maladie, l'hépatite C?
Non, je ne connaissais pas cette maladie, l'hépatite C. Mais nous, au village, on parle de fièvre jaune.
Qu'est-ce que les gens disent au village, fièvre jaune, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a des croyances particulières autour de ça?
Oui, au village, quand tu as la fièvre jaune, on regarde tes yeux, ils sont jaunes. Tes paumes de main sont jaunes. Alors on commence à te donner des médicaments traditionnels. Certains marchent, certains ne marchent pas. Donc j'ai préféré aller à l'hôpital pour qu'on m'explique ce qu'est l'hépatite C.
Donc, en fait, vous avez commencé à prendre des remèdes traditionnels au village.
Oui, au village, on commence toujours par les médicaments traditionnels. Puis je suis venu ici et le médecin a dit que je n'aurais pas dû prendre ces médicaments traditionnels. Alors j'ai suivi les conseils du médecin et je suis content maintenant. Parce que quand je suis arrivé ici, je n'étais pas comme ça. J'étais très faible. Et maintenant, je me sens mieux. Mais il faut que je redevienne fort, parce que j'ai un tas de choses à faire.
Merci beaucoup.
Thank you too. Merci.
Docteur Nzoumé? Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du cas de ce patient, justement?
Il s'agit d'un patient de 58 ans qui nous a été adressé, malheureusement, pour la prise en charge. Donc, d'une tumeur primitive au niveau du foie et qui est probablement compliquant une cirrhose virale C de découverte récente. Donc il nous a été amené dans un contexte de douleur et une altération profonde de l'état général. Donc dans le service, sa prise en charge a essentiellement consisté à soulager le malade vis-à-vis de sa douleur, à le soutenir sur le plan nutritionnel. Ici, déjà, c'est un stade de complication, tumeur primitive qui se développe sur un foie de cirrhose. C'est un malade qui ne peut plus bénéficier donc d'un traitement curatif, parce que ces malades-là viennent souvent en retard ou viennent déjà à des stades très avancés.
Donc, en gros, ce monsieur, on n'a rien à lui proposer comme traitement.
Actuellement, c'est un traitement de soutien. Et puis, c'est un traitement aussi qui vise donc à prendre en charge toutes les complications associées qui peuvent se présenter chez ce patient, et également de prévenir certaines complications aussi qui peuvent survenir par rapport à l'alimentation. Un régime désodé chez ce patient s'impose, parce que s'il mange...
Sans sel.
Oui, sans sel. Donc s'il mange, il consomme du sel, forcément ça va aggraver la rétention d'eau. Il doit arrêter impérativement l'alcool. Il doit également arrêter la prise de potions traditionnelles, comme ça a été le cas, avant qu'il ne vienne consulter. Parce que la prise de ces potions traditionnelles, très souvent on ne connaît pas quelle est la nature. Et puis la plupart de ces médicaments, de ces produits de la pharmacopée traditionnelle sont toxiques pour le foie et peuvent aggraver l'état du patient.
Donc le pronostic vital de ce monsieur est engagé. Parlons franchement, la mort est proche.
Oui, pour parler franchement, c'est vrai que dans la littérature, on va dire que la survie, c'est-à-dire la survie, on sait que très souvent au moment du diagnostic, que la survie vraiment à 6 mois est vraiment faible, mais on ne peut pas d'emblée dire quand, puisqu'actuellement il est sous hormonothérapie. Il y a des patients qui peuvent répondre à une hormonothérapie, il y en a qui ne répondent pas du tout, et chez ceux-là vraiment l'évolution est beaucoup plus rapide et plus fatale.
Igor Strauss, les patients sont souvent diagnostiqués tardivement, comme on vient de l'entendre.
Et oui, parce que les hépatites virales n'ont pas de manifestations typiques. Dans la forme aiguë, elles peuvent se présenter sous un tableau proche de celui de la grippe, donc ça n'inquiète pas les patients. Et dans la forme chronique, c'est-à-dire évoluant depuis plus de 6 mois, la maladie est souvent silencieuse jusqu'à l'apparition des premières complications. Cela explique malheureusement le diagnostic tardif et du coup les complications.
De plus, beaucoup de patients ont recours tout d'abord aux tradipraticiens.
Oui, et le problème des tradipraticiens est double. D'une part, avec les scarifications ou le blindage, ils peuvent transmettre la maladie. D'autre part, on vient de dire que la maladie était silencieuse et que les complications arrivaient alors que le virus était déjà développé. Donc aller voir les tradipraticiens retarde encore plus la prise en charge. Pire, elle peut la compliquer, puisque comme l'a dit le docteur Nsoumé, certains remèdes traditionnels sont toxiques pour le foie.
Pour les patients qui peuvent bénéficier du traitement, un suivi est organisé avec des réunions toutes les semaines, l'occasion d'ailleurs de recevoir l'injection hebdomadaire, mais aussi de parler entre patients, des effets secondaires, des difficultés quotidiennes. Guine Koukou est infirmier au CHU de Yaoundé, en charge justement de ce suivi des patients.
L'intérêt de les recevoir ensemble le jeudi, c'est dans le sens d'une synergie d'action, pour qu'à chaque fois qu'un patient a des difficultés, que nous puissions apporter des réponses et également que ça puisse bénéficier à d'autres patients. Pour le moment, on a quelques dizaines de patients qui viennent tous les matins et nous avons d'abord des explications à leur donner, des conseils, des petits conseils pour pouvoir supporter le médicament.
Et il y a des effets secondaires du médicament ?
Il y a beaucoup d'effets secondaires pour le médicament.
Comme quoi, par exemple ?
Il y a des syndromes grippaux, il y a des douleurs musculaires, parfois des petites pertes de mémoire, le genre « j'ai oublié telle chose, j'ai oublié mon carnet à la maison ». Donc on essaie de leur rassurer et c'est ça.
Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des patients? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont leurs inquiétudes ou leurs questionnements?
Les questions qui reviennent le plus souvent pour les patients qui viennent ici au CHU le jeudi, c'est des questions « est-ce que je serai guéri ?» Parce que déjà, il faut avouer que la prise en charge est non seulement difficile, mais financièrement, nos patients se plaignent également. Donc, il y a.
Le coût est exorbitant, il faut le dire.
Le coût est exorbitant. Donc, il y a d'abord ça. Est-ce que je vais guérir et...
ça doit être délicat parce qu'à la question est-ce que je vais guérir, la réponse est oui si vous avez de l'argent. Ça doit être dur pour vous.
C'est vraiment difficile. Il y a deux principaux problèmes. Est-ce que je vais guérir et quand est-ce que le prix sera abordable?
Quelle est la principale difficulté de la prise en charge, d'après votre expérience?
En tant qu'infirmier, la principale difficulté, c'est de le voir tous les jours se plaindre. C'est difficile. D'autant plus que nous ne pouvons pas apporter une solution, rien que le réconfort moral. Donc c'est ça notre difficulté tous les jours, de pouvoir suivre un patient jusqu'à bout pour qu'il puisse finir le traitement. Parce que il faudrait aussi reconnaître que certains patients, parfois, ils arrivent à la 20e semaine, ils veulent arrêter. Donc nous sommes là tous les jours pour le galvaniser, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir le mobiliser à ce qu'il puisse arriver au bout de son traitement sans avoir un obstacle quelque part. Nous devons aussi les poser des questions sur leur vie sociale. Comment est-ce qu'ils se sentent en famille? Donc on a une grosse difficulté de le prendre en charge psychologiquement, socialement. C'est ça notre principale difficulté de tous les jours.
Alors justement, Igor, comment se passe la prise en charge psychologique des patients?
Eh bien, avec un seul psychologue pour tout l'hôpital, la prise en charge psychologique est limitée, pour ne pas dire inexistante. En réalité, c'est l'infirmier que vous venez d'entendre qui s'en occupe, qui écoute, conseille, console. Et du coup, c'est vrai que ce travail en groupe est une bonne chose, car ça permet aux patients d'échanger entre eux. Tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit le plus grand bien de ces réunions. Ils sont contents de se retrouver. Donc, si vous voulez pas de réel soutien psychologique avec un professionnel, mais du dialogue, de l'écoute, écoute entre patients, ce qui n'est déjà pas si mal.
Mireille est retraitée, elle suit son traitement depuis presque 48 semaines grâce à sa fille, il finance. Elle nous parle des désagréments justement de ce traitement.
Le coût du médicament par semaine, c'est 160 000 francs CFA. 160 000 par semaine. Multiplié par 4. Donc qui peut acheter ce traitement au Cameroun en dehors des ministres? C'est pas facile parce que la plupart des fonctionnaires ne touchent même pas 120 000 par mois. Donc vraiment, c'est un traitement qui a coûté trop cher. Sans ma fille, je ne pourrais même pas avoir ces traitements.
Et comment ça se passe, le traitement? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou est-ce que vous l'acceptez bien?
Il y a des effets secondaires. Par exemple, quand vous faites l'injection, vous êtes fatigué, vous avez de la fièvre, vous n'avez pas l'appétit. Il faut forcer pour manger quelque chose alors que le traitement demande qu'on mange un repas équilibré parce que c'est un traitement fort. Et vous avez une sécheresse des muqueuses, de la bouche. Il faut beaucoup constamment boire pour vous réhydrater parce que ce médicament a des effets ça vous dessèche. Vous perdez même le poids et ça détruit les globules rouges, ça vous fatigue. Il faut beaucoup de vitamines, les fruits, beaucoup de repos, mais si vous n'avez pas le moyen de manger un repas équilibré, vous ne pouvez pas supporter ce traitement parce qu'il est vraiment fort. Si on voit que vous êtes anémié, il vous prescrit des médicaments pour élever le taux de ce qui manque dans le sang. C'est pour ça qu'il nous voit régulièrement parce que le médicament est très fort. Pendant qu'il tue le virus, il détruit aussi certaines choses dans le sang. Il faut équilibrer à temps.
Vous-même, vous avez déjà été anémié?
Oui. Disons que j'ai eu la chance de ne pas descendre trop bas jusqu'à prendre le sang. Jusqu'à ce qu'on me donne le sang, non. Mon taux d'anémie le plus bas, c'est 9 grammes. Parce que moi, bon, j'ai cette chance que je prends beaucoup de fruits, beaucoup de légumes.
Et est-ce que votre régime alimentaire, justement, a beaucoup changé?
Oui, puisqu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien pour le foie. Par exemple, c'est un mets d'ici. Les mecs où on met beaucoup d'huile. Le foie, déjà fatigué, n'aime pas trop l'huile de palme, par exemple. Ma fille est obligée de m'acheter les huiles purifiées, quoi, qui n'ont pas de cholestérol. Donc, ma nourriture est un peu différente par rapport aux autres. Pas trop gras, pas trop salé, pas trop pimenté. Et je ne bois pas d'alcool.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes sous traitement, qu'on vous fait des injections tous les jeudis?
Disons, ça va à peu près un an.
Et depuis, il y a eu une amélioration de votre état de santé ou pas?
Disons qu'il y a une amélioration parce que avant le traitement, j'étais très fatiguée. Mais depuis qu'on a commencé le traitement, il y a le traitement qui me fatigue. Mais c'est un peu différent de quand j'étais sans traitement. Quand ce sera fini, après peut-être un ou deux ou trois mois, je serai bien.
Mais vous savez combien de temps encore vous allez devoir vous faire des injections?
Bon, c'est la charge virale qui va nous dire. Si la charge est bonne, ça va. Ça dépend du nombre de virus qui est encore dans le sang. Mais si c'est indétectable, c'est très bien. On arrête les injections. Il va seulement continuer les comprimés pendant 1 à 2 semaines. Il arrête. Et puis de temps en temps, je vais faire un bilan, un contrôle, quoi.
Priorité santé, reportage.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI et aujourd'hui nous sommes à Yaoundé au Cameroun pour parler de la prise en charge des hépatites virales B et C. Une prise en charge, vous l'avez compris, rendue difficile par le coût exorbitant des traitements. Alors quel est le plateau technique au Cameroun? Peut-on faire tous les examens nécessaires? Élément de réponse avec cette visite à l'Institut Pasteur de Yaoundé en compagnie du docteur Njouom, chargé de recherche au Centre Pasteur et chef du service de virologie.
En 2003, les seules analyses qui étaient effectuées, c'était les analyses sérologiques, de détection des anticorps, qui permettaient juste de dire au patient qu'il a été en contact avec le virus. Et avec le temps, nous avons mis en place des techniques moléculaires qui sont, n'est-ce pas, la détection du virus, des ARN pour l'hépatite C et de l'ADN pour le virus de l'hépatite B, qui permettent maintenant de confirmer le diagnostic sur le patient, de suivre des patients sur traitement et puis de pouvoir dire à la fin du traitement si le patient a éliminé le virus ou pas. Et puis aussi en tant qu'institution, parce que nous sommes une équipe pasteurienne, nous sommes aussi un centre de recherche en ce qui concerne l'hépatite et notre thématique porte beaucoup plus sur l'épidémiologie moléculaire des hépatites virales au Cameroun, que ce soit de l'hépatite B, hépatite C ou l'hépatite Delta, où, n'est-ce pas, nous travaillons sur tout ce qui est prévalence, qui permet de connaître la situation de l'infection au Cameroun, les types de virus qui circulent et bien d'autres trucs sur les facteurs de risque de transmission et bien pas mal d'autres thématiques qui vont être mises en place beaucoup plus sur les aspects fondamentaux avec la mise en place d'un laboratoire immuno dans le service.
Alors justement, où en est la recherche et peut-être pouvez-vous développer surtout les cas les plus qui concernent particulièrement le Cameroun?
Bon, en fait, il y a l'épidémiologie des hépatites au Cameroun est vraiment complexe. Complexe dans le sens où, que ce soit l'hépatite B ou l'hépatite C, vous allez voir que les populations à risque sont différentes. Si nous commençons par exemple avec l'hépatite B, qui est une hépatite chronique, la population à risque, c'est beaucoup plus les enfants à cause de la transmission materno-fœtale et les jeunes à cause de la transmission sexuelle. Donc, la population à risque est jeune. Et lorsqu'on prend l'hépatite C, les personnes les plus touchées sont les personnes de plus de 50 ans et nous l'expliquons, n'est-ce pas, par le fait qu'ils aient été infectés dans le temps via les vaccinations de masse, les traitements de masse. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'au Cameroun, les cancers du foie à hépatite B, on les trouvera beaucoup plus chez les jeunes et les cancers du foie à hépatite C, on les trouvera beaucoup plus chez les vieux. Ce qui est totalement contraire à ce qu'on voit aux États-Unis et en Europe où, par exemple, pour l'hépatite C, c'est les toxicomanes intraveineux qui sont beaucoup plus des populations à risque. Bon, c'est une pratique qui n'est pas très fréquente ici au Cameroun. Donc, vous verrez que pour l'hépatite C, c'est rare de le trouver chez les jeunes, mais beaucoup plus chez les personnes de plus de 50 ans. C'est une indication qu'on a montrée, pas pour incriminer qui que ce soit, mais pour montrer qu'une pratique médicale, bien qu'elle puisse aider les populations, peut être à l'origine de transmission de certaines maladies. Et qu'en voulant peut-être aider une population, il peut y avoir des possibilités de transmission si, n'est-ce pas, des mesures d'hygiène ne sont pas prises en amont.
Alors, vous me faites le petit tour de...
Du laboratoire.
Du laboratoire.
Ok. Donc,
C'est très moderne, hein. C'est vraiment... C'est un centre de référence ici dans toute l'Afrique centrale.
Oui, effectivement. Je vous fais visiter la pièce d'amplification. Ça, c'est des thermocycleurs. Nous en avons jusqu'à 3.
C'est quoi des thermocycleurs?
Thermocycleurs, en fait, c'est des équipements qui permettent d'amplifier le virus. Parce que quand le patient arrive, il y a d'abord l'étape d'extraction. Et après, maintenant, parce que ces échantillons sont généralement à une très faible quantité dans le sang, pour pouvoir les visualiser, il faut les amplifier. Et dès qu'il est amplifié, nous pouvons le voir.
Et mieux l'analyser.
Et mieux quantifier et dire au patient, t'es positif ou négatif. Et après, maintenant, si t'es positif, dis quelle est la quantité de virus que t'as. Donc, c'est en fait ces équipements qui permettent de le faire.
Et suivant la quantité de virus, adapter le traitement, j'imagine.
Suivant la quantité de virus... voir si vous êtes candidat au traitement ou pas, ça varie d'un virus à l'autre. À chaque virus correspond, n'est-ce pas, une recommandation internationale de début de mise sur traitement. Et après, il permet, lorsque le patient est sur traitement, de suivre l'efficacité du traitement.
Et les problèmes de résistance sont fréquents, justement, ou pas?
Les problèmes de résistance sont fréquents.
Ils sont dus à quoi, généralement?
Ils sont multifactoriels. C'est-à-dire qu'il y a des raisons virologiques, des raisons de l'hôte. Par exemple, si je peux parler beaucoup plus des raisons virologiques, c'est en fait les mutations du virus. Le traitement ne pourra pas être efficace sur un virus qui a muté. C'est-à-dire que la molécule initiale agissait sur un virus de tel type et au cours du traitement, par exemple, le patient peut, n'est-ce pas, grâce à la pression médicamenteuse, arriver, n'est-ce pas, à avoir des mutations où, en fin de compte, le médicament ne sera plus efficace.
Igor Stroh, je crois que vous avez été assez impressionné par cet institut Pasteur.
Oui, parce qu'il est très moderne. Le service de virologie a été entièrement rénové en 2012. C'est vraiment un laboratoire de référence. Alors, le centre Pasteur est un laboratoire interpays. Il appuie les États voisins de la sous-région, comme le Tchad ou la République centrafricaine. Mais évidemment, Claire, la qualité a un coût. Dans les hôpitaux périphériques ou les centres de santé, par exemple, on fait des tests rapides sur bandelettes. Ça coûte entre 500 et 1000 francs CFA. À Pasteur, les tests sont plus performants, donc ils reviennent à 10 000 francs CFA. Le prix est vraiment différent. Alors, il y a une réduction de 50% pour les étudiants et de 70% pour les fonctionnaires. Mais pour les autres points de réduction, on est toujours donc dans ce problème du coût. Il y a les traitements, le plateau technique, mais pour la plupart des Camerounais, y avoir accès est un problème. Petit bémol tout de même, pour l'instant, il y a deux difficultés majeures à l'Institut Pasteur. La commande des réactifs, les produits utilisés dans le laboratoire. Il y a encore des ruptures de stock et des problèmes de réapprovisionnement. Et puis la maintenance du matériel, c'est un matériel de pointe et il faut des spécialistes pour l'entretenir. Or, le pays en manque. Et puis enfin, à noter clair, le CIRCB, le Centre International de Recherche Chantal Biya, qui dispose également d'un plateau technique de qualité avec notamment la charge virale, etc.
Quels sont les enjeux de la recherche sur les hépatites au Cameroun ?
Eh bien, à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement contre les hépatites aiguës. L'efficacité des médicaments utilisés dans les cas chroniques est parfois mise à mal. Seules les hépatites A, B et D, ou Delta, peuvent être prévenues par la vaccination. Alors, petit rappel, le vaccin contre l'hépatite A existe depuis 1992, celui contre l'hépatite B et D, ou Delta, existe depuis 1981, et on peut contracter une hépatite D ou Delta uniquement si on a déjà une hépatite B. On parle alors de co-infection ou de surinfection. Du coup, en fait, on a assisté à une baisse de l'hépatite Delta grâce à la vaccination contre l'hépatite B. En revanche, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C, uniquement des traitements antiviraux avec un taux de guérison qui varie entre 40 et 80%. Du coup, bien, les recherches menées au sein de l'Institut Pasteur et du réseau international ont pour objectif d'améliorer les outils de diagnostic précoce et de développer de nouveaux traitements et de vaccins. Alors, sans rentrer dans des termes trop techniques, sachez que les équipes des instituts Pasteur de France, de Russie, du Vietnam, de Roumanie, travaillent actuellement sur le vaccin de l'hépatite C avec des résultats assez encourageants. Et puis un nouveau vaccin contre l'hépatite B est en cours d'essai clinique, il est en phase 2, sous l'égide de l'ANRS, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales.
Qui est une agence française. Alors comment s'en sortir? Les solutions? On écoute le point de vue du professeur Njoya Oudou, qui est hépato-gastro-entérologue, directeur médical et technique au CHU de Yaoundé, directeur du laboratoire de recherche sur les hépatites virales.
Il faut effectivement faire un plaidoyer sur deux aspects. Le premier aspect reste celui du coût du traitement, parce que pour l'instant, pour des raisons de protection, de brevets et autres, les coûts des médicaments sont très très élevés pour les pays à faible revenu.
Donc il faut que les laboratoires mettent la main à la poche et acceptent de baisser le coût des traitements.
Il faut qu'ils acceptent de baisser le coût du traitement et puis de brevetiser, donc le mot n'existe pas, mais c'est-à-dire peut-être enlever le brevet bien plus tôt que d'habitude, permettre au moins qu'on puisse fabriquer des génériques et donner donc un accès à un plus grand nombre de patients. Deuxièmement, l'aspect préventif, l'aspect de prévention, notamment la sécurisation de certains actes, notamment la transfusion sanguine. Je vous redis que dans la plupart des pays, pour ne pas dire dans la totalité des pays africains, la transfusion sanguine repose pour l'instant sur des tests uniquement de dépistage. Or, nous connaissons très bien que ces tests de dépistage sont insuffisants pour sécuriser une transfusion sanguine. Donc, toutes ces choses font que aussi bien la communauté internationale que les décideurs au plan local devraient en prendre conscience et puis permettre qu'on puisse se lancer dans cette voie qui apparemment semble coûter cher au début, mais au bout du compte, ça coûtera moins cher parce qu'on aura évité de faire des traitements lourds et coûteux plus tard.
Igor Strauss, il y a une première avancée concernant le coût des traitements, justement, pour ces hépatites.
Et oui, un accord entre l'État camerounais et le laboratoire Hoffmann-Laroche a été signé récemment pour faire baisser le prix du traitement de 33%. Alors, c'est toujours pareil, Claire, on part d'un coût tellement élevé qu'une réduction d'un tiers ne permet toujours pas aux patients d'avoir accès au traitement. Et puis surtout, bien, cette réduction n'est toujours pas effective, alors que pour les patients, eh bien, ce serait quand même un bol d'air non négligeable.
Et il faut savoir que les associations de patients internationales, les grandes ONG, les médecins demandent que soient appliquées des pratiques, des tarifs différentiels, comme c'est le cas pour le sida, avec des tarifs différents au nord et au sud. On pourrait après tout faire exactement la même chose pour les hépatites et baisser de plus de 30%, ce qui serait quand même intéressant. Igor Strauss, merci pour ce reportage au Cameroun, réalisé en partenariat avec l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Une émission réalisée par Didier Bleu. Demain, nous serons en Tanzanie, à Dar es Salaam, à l'occasion de la rencontre des partenaires Gavi, l'Alliance pour les vaccins et la vaccination, et nous parlerons justement de l'intérêt et de l'apport de cette vaccination dans les pays en développement. À demain.
RFI est là-bas. Mais aussi ici. Douala, 97.8 FM.